Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce soir, à partir de 23h et jusqu'à 1h du matin, Caroline Dublanche cède sa place à Franck Ferrand pour évoquer 60 ans d'histoire revécue à travers les archives d'Europe 1. Un programme qui promet de belles surprises. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Je sais, parce qu'il m'est arrivé d'en rencontrer, que certains de nos auditeurs sont fidèles à la station depuis sa création, c'est-à-dire depuis 1955. Eh bien, ce sont eux que j'aimerais mettre à l'honneur aujourd'hui. Et mieux que cela, si vous le voulez bien, nous allons leur dédier cette émission. J'ai pu parler, bien évidemment, à beaucoup de nos grands anciens, si je puis dire, dans la préparation d'un dictionnaire amoureux qui sortira bientôt. Et je me suis dit qu'évidemment, on aurait pu évoquer aujourd'hui Pierre Bellemare ou Coluche ou d'autres grands talents de cette maison. J'aurais pu vous faire entendre les célèbres indicatifs de Pour ceux qui aiment le jazz, de Barbier de nuit, d'Amadou et Maryse. Mais en réfléchissant à ce qui, depuis 60 ans, a fait la spécificité de cette maison, je me suis dit qu'il fallait d'abord rendre hommage à ses journalistes, à sa rédaction, à l'information. Et dès lors, l'invité de cette émission spéciale était tout trouvé. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui le patron de l'information d'Europe 1. Bonjour Fabien Damias.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous en ce jour anniversaire.
Eh bien nous aussi, nous sommes ravis. Nous avons quelques petites surprises. Vous allez voir qu'on va diffuser dans les minutes qui viennent. Et puis ensuite, on reviendra sur toute cette très belle aventure. 60 ans d'information non-stop. Je me disais ce matin, d'ailleurs en écoutant les hommages des uns et des autres, que ce qu'il y a peut-être de plus fascinant, c'est que depuis 1955, ce flux ne s'est jamais arrêté, que jour et nuit, il est là, qu'il diffuse, qu'il vous accompagne. C'est une chose tout à fait inouïe. Je pense qu'on pourrait presque dire que c'est une belle image de la vie en tant que telle.
Oui, et puis tout à l'heure, Franck, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Janine de Grenoble qui nous demande depuis quand Europe 1 est une radio périphérique privée.
Alors, je pense que Janine confond deux notions, mais on y viendra justement tout à l'heure. Il était bon de ressortir sa question des tiroirs parce que je pense qu'elle l'a envoyée il y a un certain temps, mais c'était le jour ou jamais de la traiter. Des archives ce soir à 23h, des archives là maintenant, c'est un peu la journée des documents sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Trois hommes d'exception sont à l'origine de la radio de la rue François 1er, trois grands professionnels qui ont fixé d'entrée de jeu le ton et la teneur de ce que devait être Europe numéro 1. C'était Louis Merlin pour les programmes, un homme de communication hors du commun qui est à l'origine, vous savez, de ce qu'on a appelé le ton Europe 1. Il l'a véritablement créé, ce ton si détendu, si spontané, si différent des autres à l'époque en 1955. Le deuxième, c'était Lucien Maurice, un programmateur musical aux intuitions géniales, qui était en même temps un incroyable dénicheur de talent. On lui doit la découverte de pas mal des grands noms de l'audiovisuel français. Il était totalement, Lucien Maurice, en prise sur l'air du temps. Et puis, bien sûr, Maurice Siegel. Tout à l'heure, à 18h et quelques, le président Oliven va recevoir la famille de Maurice Siegel. Maurice Siegel est mort en 1985 et ensemble, ils vont baptiser le studio 1 d'Europe 1 du nom de ce grand journaliste, père de l'information dans cette maison. Vous savez que selon l'expression consacrée, une radio, ça marche sur deux jambes, l'information et les programmes. Les deux sont essentiels, bien sûr, mais disons-le, osons le dire, à Europe 1, c'est l'information qui aura primé, qui prime, qui primera toujours. Les grands patrons de l'info, avant Fabien Damias, alors il y a eu entre autres Étienne Moujotte, Philippe Gildas, on pourrait en citer tout un tas, hein, bien entendu, jusqu'au plus récent, Benoît Duquesne, Laurent Guimier, Arlette Chabot, Patrick Roger, etc. Ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Étienne Moujotte est passé nous voir la semaine dernière. Je lui ai posé quelques questions sur la place de l'information ici à Europe 1. Est-ce qu'Europe 1, à l'époque, donnait le « là » de l'information? Est-ce que vous avez ce sentiment?
En matière audiovisuelle, oui. Il y avait deux référents. Il y avait Le Monde dans la presse écrite et il y avait Europe 1 dans la radio.
Oui, donc c'était quand même une lourde responsabilité.
C'était un rôle de leader. Europa était leader et Europa se conduisait comme un leader, c'est-à-dire que ce qui se passait à Europa était écouté et non pas regardé, car il n'y avait pas de caméra évidemment, à l'aune d'un leader.
À l'aune d'un leader, nous dit Étienne Moujotte. Maurice Siegel a créé les flashs d'infos. Jusqu'alors, n'oubliez pas que dans les radios, les papiers étaient rédigés par des journalistes et puis on donnait les papiers à des speakers qui les disaient au micro. Eh bien, Siegel met fin aux speakers. Il demande aux journalistes de venir eux-mêmes présenter leurs papiers. C'est lui aussi qui va faire évoluer les journaux parlés de l'information pure vers le magazine, comme il l'expliquait au tout début des années 1960, dans un document qui n'a jamais été diffusé. C'est un document qui a été enregistré lors d'une conférence interne à la maison.
Ce que nous voulons faire aussi de nouveau, et c'est une tentative, je ne sais si elle est bonne, c'est quelquefois prendre un peu de recul sur l'information en créant un service magazine. C'est-à-dire combien de fois nous sommes aperçus à voir, et je prends par exemple pour ceux qui ont suivi nos informations sur le Congo, pour vous raconter cette anecdote que vous ne connaissez peut-être pas. Notre envoyé spécial, René Duval, se trouvait au Congo et se trouvait au répéteur lorsque les soldats de Lumumba sont rentrés, ont déchiré les fils et aucune transmission n'était plus possible. Et par chance, il faut bien dire que c'est le seul de notre équipe, c'est un bricoleur né, il se promène toujours avec un tournevis et il a rétabli tous les circuits et c'est ainsi, c'est comme ça et comme grâce à lui que nous avons pu avoir la première liaison avec le Congo et distribuer ce reportage à la BBC, à la NBC et même CBS, qui, eux, ne pouvaient avoir aucune liaison avec leurs envoyés spéciaux. Donc, si nous prenons l'exemple du Congo, où il y a une série d'excellents documents, Duval va rentrer, eh bien, il est évident qu'il est capable, avec les documents et ce qu'il a vu, faire une émission qui prendra un peu de recul sur ce que nous avons diffusé au cours des différents bulletins, et faire une émission spéciale sur le Congo. Il en est de même, par exemple, Claude Thérien, s'est rendu il y a 15 jours environ en Hongrie. Il a rencontré un certain nombre de dirigeants. Il a vécu 10 jours en Hongrie et nous ferons, en mêlant d'ailleurs, en rappelant certains documents que nous avons diffusés lors des événements de Hongrie, nous ferons une émission La Hongrie 4 ans après.
La voix de Maurice Siegel, c'était en septembre 1960. Alors maintenant, je voudrais vous plonger dans les ondes de l'information d'Europe 1. Nous sommes le 25 mars 1958. Le marquis de Cuevas a insulté le danseur Serge Liffard et à la rédaction d'Europe 1, on s'est mis en tête d'essayer de les réconcilier, d'éviter le duel sur le pré.
Je sais combien le Tout Paris et nous-mêmes journalistes, nous sommes quelquefois friands de telles informations comme celles que vous nous fournissez aujourd'hui. Mais je voudrais vous poser quand même, vous faire une demande. Est-ce que vraiment, pour l'un et pour l'autre, la réconciliation est impossible? Est-ce qu'on ne peut pas vous demander, devant nos auditeurs d'Europe Midi rassemblés ici dans notre studio, de vous rencontrer et de vous expliquer, enfin disons, autrement que sur un pré? Est-ce qu'il est impossible d'obtenir ça de vous?
À qui demandez-vous?
À vous. Eh bien, puisque vous avez pris la parole, à vous-même d'abord, Serge Liffard.
Ah, il me semble aujourd'hui c'est difficile, on est allé un peu loin avec nos déclarations. Alors, comme le marquis est courageux, et moi, vous savez, ça ne me manque pas le courage, alors je crois que nous continuons de nous exercer.
C'est-à-dire, c'est un refus de la mission Beaux Offices que je vous prépare.
Non, Serge Liffard, Maurice Siegel, notre rédacteur en chef, justement, vous propose sa mission de Beaux Offices. Est-ce que vraiment, pour vous, c'est impossible de venir serrer la main du marquis de Cuevas, ici, de profiter de cette rencontre inopinée, puisque vous ne vous y attendiez pas, bien sûr, et d'aller dans le studio tout à l'heure, dans le studio où se fait ce journal, et de venir serrer la main du marquis de Cuevas? Vous êtes vraiment irréductible?
Vous êtes le plus jeune, Serge Liffard.
Mais je sais.
C'est à vous qu'il a
marqué. Mais vous savez, quand même, aujourd'hui, il y a l'honneur engagé de nos témoins. Alors, vous comprenez, je ne peux rien dire, n'est-ce pas,
Vous l'avez dit tout à l'heure, je vous coupe, là, Serge Liffard. Vous avez dit tout à l'heure, le marquis ne voit pas très bien, il n'entend pas très bien. Peut-être va-t-il être quand même très désavantagé dans ce duel.
Mais dans ces conditions, pourquoi le marquis a choisi l'épée?
Et ici, c'est Alain Choiset, je suis avec le marquis de Cuevas, qui, lui, va vous dire pourquoi il a choisi l'épée.
Moi, j'ai choisi n'importe quoi. Parce que tout m'est égal, je n'ai pas l'habitude des armes, alors qu'est-ce que ça fait?
Vous voyez, je crois quand même, Serge Liffard, si le marquis acceptait cette réconciliation et cette poignée de main, je crois quand même que vous ne pouvez pas la lui refuser.
Non, je sais, mais vous savez que j'ai pris ma leçon aujourd'hui.
Ah, eh bien, ce sera une leçon pour rien.
Le Maurice Yégel ?
Oui, oui.
Ici, c'est Ferrand Choisel. Eh bien, je vous signale que le marquis de Cuevas veut quitter notre bureau car il m'a dit qu'il ne voulait pas de réconciliation.
Ça, c'est quand même du happening, en quelque sorte. Alors, évidemment, l'info sur Europe numéro 1 à l'époque, ce n'était pas seulement de la petite histoire. La grande y a eu toute sa part, avec la guerre d'Algérie, très largement, la crise de Suez, la guerre des Six Jours, l'entrée des chars soviétiques à Budapest, puis à Prague. Et puis, bien sûr, au moment des événements, comme on les appelait, les événements de mai 1968, Étienne Moujotte nous a raconté l'autre jour qu'il était aux premières loges de ces événements.
J'ai eu un rôle essentiel dans la première nuit, la nuit d'Île des Barricades, où Jacques Paoli faisait l'antenne et moi chargé du reste de l'actualité. Et donc, j'ai entendu l'antenne dans le studio pendant 6 heures sans jamais intervenir évidemment.
Ah oui, ça.
Le reste de l'actualité.
Ce qui s'appelle être aux premières loges, oui. D'une certaine manière.
Non, le patron de l'époque, Jean Morini, avait dit on ne sait jamais, il faut un journaliste. On charge du reste. Évidemment, le reste n'est nu à rien.
Alors, l'archive que nous allons vous diffuser maintenant, vous la connaissez probablement, mais je n'ai pas résisté au plaisir de la partager avec ceux qui ne la connaîtraient pas. Nous sommes le 10 mai 1968 et c'est Jacques Paoli qui présente Europe Soir.
Allô, Jacques Paoli ?
Fernand Choisel, allez-y.
Allô, eh bien, je peux vous donner la signification des explosions que vous avez entendues. Ce
oui.
sont des espèces de grenades qui ont pour but d'incendier les barricades. En effet, la plupart des barricades ont été montées avec du bois. Et il y a déjà une barricade qui brûle et je vois un incendie qui se déclare de l'autre côté, de l'autre barricade. De l'autre barricade. Et maintenant, les barricades sont en feu.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Fernand Choisel.
Écoutez, je prends le micro parce que je viens de la première barricade.
Oui.
La police envoie en ce moment des grenades avec du chlore et tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'en ce moment, de deux choses l'une, les manifestants ne pouvant se retirer, ou c'est le massacre, il sera pire qu'à Charonne, où la police arrête.
Fernand Choisel.
C'est vraiment les yeux qui me piquent. L'objet de cette explosion, vous avez entendu une autre explosion, là je pense une troisième maintenant, qui se propage maintenant tout au long de cette barricade, tandis que les forces de police lancent des grenades lacrymogènes, obligeant ainsi les étudiants à reculer. Nous-mêmes, nous sommes obligés de reculer maintenant.
J'appelle tous les manifestants à se retirer du quartier latin. Vu la cruauté de la police, il n'est pas nécessaire de mener des combats d'arrière-garde. Le pouvoir a essayé de frapper durement le mouvement étudiant, n'a pas dispersé une manifestation, mais l'a durement, violemment attaqué, qu'en se croyant en guerre civile. J'appelle donc tous les syndicats, tous les partis de gauche faisant partie de l'opposition, de se mettre en grève générale à partir de la journée de lundi pour justement montrer leur solidarité avec les étudiants et les jeunes travailleurs.
Vous avez reconnu la voix enrouée à force de hurler de Daniel Cohn-Bendit qui devait revenir beaucoup plus tard sur Europe 1 pour parler beaucoup plus calmement.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, à cette émission spéciale pour les 60 ans d'Europe 1 avec de très belles archives.
N'est-ce pas ? Alors, on entendait la voix de Jacques Paoli tout à l'heure. Il faut savoir que Jacques Paoli, ça a été aussi le présentateur marathonien, si je puis dire, d'un grand magazine qui durait de 13h30 à 18h30. Vous imaginez, 300 minutes d'antenne. C'était un peu le grand échiquier des ondes. Vous allez constater que la modernité de l'émission avait cependant ses limites.
On a beaucoup réfléchi au problème et on s'est dit que ça n'était pas juste dans une société comme celle d'aujourd'hui de pratiquer la ségrégation, c'est-à-dire de prendre un ton particulier pour s'adresser à des femmes sous prétexte qu'elles ne comprennent pas très bien la politique, qu'elles ne savent pas faire marcher une voiture. Moi, il me semble que c'est de moins en moins vrai, que les femmes sont de plus en plus majeures dans ce pays. Elles le montrent en prenant très souvent les décisions de vacances, en tenant le budget familial, en ayant énormément de responsabilités, même sur le plan éducation, face aux hommes qui, paraît-il, sont mobilisés par le travail. Elles deviennent des gens éminemment majeurs et par conséquent, il ne faut pas en faire un public à part, un public qui pourrait souffrir de ségrégation.
Alors c'est au milieu de beaucoup de musique, une émission qui parle des choses de la vie et qui s'adresse évidemment à tout le monde parce que tout le monde vit.
Bien sûr, tout le monde vit. Je crois qu'il faudra qu'on établisse des seuils de communication qui m'apparaissent comme raisonnables aujourd'hui. Je veux dire par là que, bien sûr qu'on parlera de choses sérieuses dans cette émission, on parlera aussi de choses plus légères et en conjuguant tout cela avec de la musique. Mais si par hasard nous avions à parler de mode pour des adolescentes, eh bien c'est à une adolescente qu'on demandera de le faire. On a choisi une jeune fille qui s'habille bien, mais assez simplement. Elle s'appelle Anne Ventura. Elle a 16 ans, on a l'autorisation de son père, bien sûr, on a fait toutes les formalités administratives
Ventura,
nécessaires.
C'est un nom connu, ça.
C'est Ray Ventura. C'est amusant, d'ailleurs, de penser à ce saut de génération, de penser que lui a été extrêmement jeune à une époque, je ne veux pas dire le pauvre qu'il est vieux maintenant, mais ça a été les aventures, les bandes de musiciens, les bandes de chanteurs, les bandes de jeunes qui partaient sur les routes, la miaoute ou tout ce que vous voulez. C'est aussi l'ère des vacances, c'était ça pour lui. Et désormais, c'est une nouvelle aventure à la radio, avec un autre moyen d'expression que le cinéma ou la musique, avec sa fille, avec Anne Ventura, qui fera donc chez nous la mode pour...
Alors, ce que les auditeurs, c'est quand même inouï, hein, ce qu'on vient d'entendre, ce que les auditeurs d'Europe 1, depuis des décennies, sont venus aussi chercher sur cette fréquence, c'est une sorte de happening permanent, comme le jour où le ministre de l'Intérieur, Jacques Chirac, est dans sa voiture, il entend André Arnault citer un papier de l'AFP disant que le président Pompidou, dans les derniers temps, n'avait plus sa tête lors du Conseil des ministres, et le ministre de l'Intérieur débarque à la radio, il s'assied au micro, il parle, c'est assez extraordinaire. Or, quelques semaines plus tard, Jacques Chirac est devenu Premier ministre du nouveau président Giscard d'Estaing. Il est interviewé par Gérard Carrérou. Il refuse de répondre à une question. La scène va être diffusée telle qu'elle à l'antenne. Et là, le Premier ministre est outré. Il demande au nouvel actionnaire d'Europe 1, Jean-Luc Lagardère, la tête de Maurice Siegel. Étienne Moujotte va démissionner par solidarité, mais on lui confie néanmoins la succession de ce patron auquel il rend hommage.
Il était le patron de la station, ancien journaliste, passionné d'infos, et il faisait lui-même les soirées électorales.
L'autre jour, Gérard Carrérou m'a raconté comment, en 1974, après avoir interviewé le Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, et avoir diffusé telle quelle une interview dans laquelle Chirac refusait de répondre à certaines questions embarrassantes, il y a eu la fameuse crise qui devait aboutir au départ de Maurice Siegel.
Oui, c'est un moment où l'État était majoritaire européen, et où, à l'issue de la présidentielle de 1974, le tandem Giscard-Chirac a considéré que la direction d'Europe 1 de l'époque avait joué chamant contre Giscard au premier tour. Et on a purement et simplement liquidé l'équipe de direction.
Alors évidemment, la spécificité d'Europe 1, ça a été d'avoir de grandes signatures que le public connaissait et reconnaissait. Et qui dit grande signature dit aussi fort caractère avec tous les problèmes que cela peut poser.
Un jour, Levaille, Yvan, sur le perron de l'Élysée, donnait la composition du gouvernement. Et il n'a pas eu de liaison. Et il est rentré, mais il avait envie de tuer un garçon qui s'appelait Bruno Dalle, qui était mon fidèle lieutenant, qui était l'homme qui organisait tout derrière. Il voulait le tuer. On a été obligé de dire, Yvan, arrête, il n'y est pour rien.
Ah oui, c'était quand même assez violent.
Assez chaud, oui. Oui. On avait les journalistes à très fort tempérament. Hein. Il n'y avait pas, aujourd'hui, ce qu'il y a dans les rédactions, une civilité, une manière de bien se conduire.
Assez lisse, finalement.
Oui. Non, il y avait encore des cow-boys. Ce n'est pas désagréable.
Ça vous fait réagir, Fabien Amias, les cow-boys d'Étienne Moujotte.
Oui, et ce qui me faisait beaucoup réagir aussi, c'est ce qu'il disait juste avant sur l'éviction de l'équipe... Siegel, Gorini, le roi qui a dirigé la maison et la rédaction pendant 20 ans, enfin de 55 à 74. Et cette éviction, elle signe le poids extraordinaire qu'Europe 1 avait pris. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais l'histoire était fantastique. Jacques Chirac, Premier ministre, qui lors d'un dîner au restaurant Taïwan, un restaurant très chic à quelques encablures d'Europe 1, convoque la direction d'Europe 1 et leur dit « ça n'est plus possible, ce persiflage, je ne veux plus l'entendre, c'est un vendredi soir ». Et le lundi, le représentant de l'État, Jacques Baudouin, qui vire manu militari toute la direction d'Europe officiellement pour persiflage, on voit à quel point Europe comptait et à quel point Europe se différenciait dans le paysage.
Bien entendu. Alors, autre éviction, c'est celle de mai 1981. Cette fois, c'est Étienne Moujotte qui s'en va. Il est remplacé par Philippe Gildas, dont on retrouve la voix aux côtés de celle, on va dire, mêlée à celle de Coluche. On est en 1985 et c'est la création des Restos du Cœur.
Tout au long de cette matinée, nous allons tous ensemble, mais vous d'abord, nous intéresser au Restaurant du Cœur de l'ami Coluche. Il y a combien de temps ? D'abord, bonjour, Coluche.
Bonjour, alors ça va ?
Ça va bien, ça va, à cette heure-ci, ça va doucement. Mais il y a combien de temps que tu as lancé l'idée de...
Oh, je sais pas, il y a quoi, 2 mois, hein ? Ouais, un peu moins de 2 mois.
Ça, c'est Paul Lederman.
Ça marche bien, hein.
Alors, je vous rassure tout de suite, hein, vous allez avoir une matinée normale quand même, hein, toutes les informations, tous les journaux, tous les renseignements qui vous sont nécessaires. Mais entre les journaux, entre les informations habituelles, nous allons effectivement vous dire comment vous pouvez, vous qui nous écoutez, participer à votre façon à cette initiative de Coluche qui s'appelle donc désormais les Restaurants du Cœur. Alors, on peut peut-être une première fois dire tout d'un coup.
Voilà,
Michel.
Alors tout d'un coup, alors ben voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben, il y a plein de gens en France qui n'ont pas de quoi se nourrir. Et c'est désolant. Alors bon, bah comme les quantités de nourriture existent et qu'il faut peu d'argent pour l'acheter, et ben on se dit que si on arrive à récupérer cet argent, on peut les acheter. Voilà. Bon, et puis les donner à tout le monde, les distribuer. Mais c'est plutôt des centres de distribution qu'on va faire, hein.
Oui.
C'est-à-dire que on va ouvrir des endroits, des locaux prêtés, en général par les municipalités consentantes, qui vont. On va ouvrir ça, et puis à l'intérieur, on pourra trouver de quoi constituer des repas pour tous ceux qui vont venir. Et puis qu'ils mangeront chez eux en général, quoi. On n'y mangera pas sur place.
L'ouverture quand même de ces centres de distribution, c'est obligatoirement samedi prochain.
Ah oui. Normalement, il faut commencer, bien sûr, le 21 décembre, c'est le premier jour de l'hiver. C'est ce qu'on s'est fixé comme objectif jusqu'au 21 mars, dernier jour de l'hiver.
Ce que me disait Philippe Gildas il y a quelques jours à propos de la création de ces Restos du Cœur, c'est que dans l'esprit de Coluche, c'était vraiment une opération ponctuelle, qu'il n'avait pas du tout l'intention de pérenniser les choses et qu'il aurait sans doute été bien surpris de voir malheureusement l'extension que tout ça a pu prendre. Un petit clin d'œil comme ça pour finir ce rapide survol de l'histoire d'une rédaction. Vous imaginez tout ce qu'il aurait fallu pouvoir vous diffuser. C'est la voix du plus célèbre... comment est-ce qu'on pourrait dire, de Monsieur Météo, en tout cas la voix la plus célèbre de cette histoire, de cette rédaction, celle d'Albert Simon, qui, dans l'extrait que vous allez entendre, se fait mettre en boîte sévèrement par Jean-Claude Dacier.
Albert ?
Je suis prêt pour le duplex.
Ah bon, bah, je vous entendais pas. Ça va-t-il ?
Oui, ça va, je vous remercie.
Bon. Ne me demandez pas de mes nouvelles, hein, comme ça je vous en donnerai.
Mais je vous ai vu tout à l'heure.
Ah, c'est vrai. Bon, alors mon cher Albert...
Vous modulez, il module.
Albert, nom de Dieu... Albert.
Je module, tu modules, il module. Nous modulons, vous modulez, il module.
Bon alors Albert, c'est fini cette rigolade. Oui, j'aime bien votre humour, mais enfin ça a des limites. Albert.
Je module, tu modules, il module.
Module.
Alors mon cher Albert, est-ce que en cherchant bien, nous allons pouvoir trouver quelques brins de muguet fleuris ce week-end ?
Oui, on pourra mugueter sa belle, mais il faudra quand même bien se couvrir.
Qu'est-ce que c'est que ça, Simon ? Qu'est-ce que ça veut dire, mugueter sa belle ? Hein ?
Ben, ça veut dire offrir du muguet à sa belle.
Ah bon ? Mais il faudra l'acheter.
Ben, évidemment.
Il y en a dans les bois, ou non ?
Oh, il y en a sûrement, oui.
À l'évidence, il ne peut pas y en avoir avec le temps de merde que vous nous annoncez depuis 3 semaines.
Pourquoi ? Il a fait très beau pendant. Il y a eu beaucoup plus de soleil que d'habitude.
Je vais vous filer une plainte au comité d'entreprise, vous allez voir.
Quand je vous parlais d'une certaine liberté de ton, on peut dire que Dacier est allé très loin, lui, dans ce domaine. Dans un instant, avec Fabien Damias, nous revenons évidemment sur tout ce que nous venons d'entendre et sur tout le reste aussi.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, nous fêtons aujourd'hui les 60 ans d'Europe 1, 60 ans d'information. Et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec notre directeur général et directeur de l'information, Fabien Damias.
Je vous voyais trépigner, Fabien, à chaque extrait, parce qu'on aurait pu réagir sur chacun.
C'est extraordinaire, ces extraits, ça inspire. Mais alors là, il faudrait qu'on fasse comme Jacques Paoli, qu'on fasse de 13h30 à 14h à 18h30.
C'est incroyable, entre parenthèses, d'avoir à l'époque, ça faisait 5 heures d'antenne non-stop, avec, c'est vrai, des chansons quand même, des extraits de films. Enfin, c'était du magazine. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on était en 1970-71, c'est-à-dire dans l'après mai 68, quand on n'hésitait pas à faire des véritables expériences culturelles, ce qu'aucune radio aujourd'hui ne pourrait plus se permettre. Et évidemment, ce serait un peu déraisonnable. Alors, oui, le mieux...
Et d'ailleurs, Franck, puisque vous parlez de ces longues plages où on nous dit beaucoup ces derniers temps, ah mais alors c'est quoi cette nouvelle mode à la radio, faire des émissions plus longues où on étire, etc. Non, c'est simplement revenir à ce qu'Europe 1, et grâce à vous, on vient de le redécouvrir, a inventé au milieu des années 60. Voilà, c'est la recette de la belle radio. Quand on a des gens qui ont du talent, ils savent tenir l'antenne et il faut savoir en profiter. Europe 1 avait inventé ça, notamment avec Paoli, au début des années 60. Oui,
il faut laisser le temps, ça c'est une certitude. Le mieux peut-être pour comprendre ce qu'a été la révolution de l'information Europe 1, c'est de se remettre dans le contexte du milieu des années 1950. Ce qui se passe sur cette antenne à l'époque, c'est un véritable coup de poing, Fabien Damias.
Oui, parce que déjà, on a du mal à imaginer ce qu'était l'information. Aujourd'hui, la façon dont on fait les journaux, dont on raconte l'information, ce que vous entendez sur Europe 1, est-ce que vous pouvez entendre par ailleurs un ton que vous avez tout à l'heure évoqué, délié, simple, spontané, ça n'existait pas.
Et voilà, il y avait ce ton perché, comme ça on parlait, de façon radiophonique.
Exactement, et des speakers rentraient dans les studios et lisaient des papiers qui avaient été écrits par les journalistes. Des papiers d'ailleurs qui ne brillaient pas par leur franche liberté, si vous voulez, en termes de contenu. On était vraiment dans l'immédiat après-guerre et Europe, Siegel et son équipe se disent « Non mais on va faire de l'information parlée ». Alors ça peut paraître comme ça bizarre l'information parlée, mais c'était les journalistes qui écrivaient leurs papiers et qui venaient les raconter à l'antenne comme nous sommes en train de nous parler en ce moment, naturellement. Dans la façon de faire, dans
personne
la forme,
n'avait
c'était une révolution.
Ça. D'ailleurs, entre parenthèses, je lisais dans deux ou trois ouvrages à l'occasion de la préparation de ces 60 ans que c'est la première fois qu'on l'a fait en France. Mais en réfléchissant, je me dis que c'est probablement la première fois qu'on l'a fait dans le monde. Car il ne faut pas oublier que dans le monde anglo-saxon, le système des speakers, s'est prolongé jusque dans les années 70. Donc, qu'en 1955, une radio ait osé parler comme Monsieur Tout-le-Monde, ça paraissait incroyable. Et alors, non seulement on parlait comme Monsieur Tout-le-Monde, mais on essayait d'aller faire du reportage. C'est la grande ère du Nagra, hein, bien sûr.
Mais ça aussi, et ça, c'est extraordinaire. Et on a pu en profiter grâce aux quelques extraits que vous avez diffusés en ce début d'émission. C'est la culture du reportage, de ce qui se passe, on entendait Maurice Siegel dans une conférence de rédaction, génial ce document d'ailleurs, expliquer les reportages qui avaient été faits, etc. au Congo, et puis 68. Et si Europe 1 est ce qu'elle est aujourd'hui, si elle a cette réputation, cette tradition d'information, c'est parce qu'on a pu entendre à l'antenne ce que vous avez diffusé. Les reporters au milieu des rues, les bruits d'explosion derrière, les types qui gueulaient CRSSS, Cohn-Bendit qui s'emparait du micro, nous étions les seuls à faire ça. Et nous avons à ce moment-là acquis cette image extraordinaire de liberté et d'information parfaitement libre.
Quelqu'un me disait récemment, moi je vois pas trop ce que c'est que le ton européen. On ne peut plus le voir aujourd'hui parce que je ne pense pas que ce soit de l'infatuation de dire ça, mais honnêtement, tous les médias, petit à petit, se sont mis à parler comme européen. Alors effectivement, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle à peu près librement dans tous les micros. Mais pendant très longtemps, c'était une spécificité, encore une fois, avec des formats qui étaient extrêmement bien cadrés. Ça, c'était l'école Maurice Siegel, hein, ouais. Avec les flashs toutes les heures, avec ces journaux séparés en chapitrés, on va dire, en fonction des sujets d'intérêt des journalistes. Et ce qu'il faut dire, c'est que dès le début, Europe 1 ne se contente pas de parler de l'actualité immédiate du jour, mais que, comme nous le faisons tous les jours chez Thomas Soto, hein, tous les matins notamment, on essaie d'ouvrir sur de nouvelles, comment on pourrait dire, sur des sujets de société, sur des aspects de l'actualité. Ça aussi, c'est Europe 1.
Oui, ça a été une des grandes forces d'Europe 1, c'est d'abord de raconter la vie telle qu'elle est, la vie économique, la vie politique, etc. Et ensuite d'être en phase avec la société, d'épouser les contours de la société, de raconter la France telle qu'elle évoluait. C'est pour ça qu'Europe a aussi bien appréhendé les événements de mai 68 que le pouvoir politique et les autres médias qui étaient tenus par le pouvoir politique n'avaient pas senti. Parce que la spécificité d'Europe, et ça c'est important de le rappeler, c'est que de 1955, de sa création jusqu'à quasiment l'éclatement de l'ORTF au milieu des années 70.
Pendant 20 ans.
Voilà, Europe 1 était l'un des seuls, si ce n'est le seul, média audiovisuel à être parfaitement indépendant dans sa façon de fabriquer de l'info. C'est-à-dire, voilà, Radio France était l'ORTF, la télévision était tenue par le pouvoir, c'était les années perfides et sa suite. Et puis, Radio Luxembourg, à l'époque, hein, nos amis d'RTL s'appelaient comme ça, avait une tradition.
C'était pas trop à l'info, en fait. Hein.
C'était moins porté sur l'info qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc, Europe 1 bénéficiait d'un couloir. D'abord celle de s'intéresser à l'information et ensuite de bénéficier d'une extraordinaire liberté due à son statut, vous avez évoqué tout à l'heure le mot, de radio périphérique.
Avec des auditeurs qui de plus en plus se mettent à intervenir au micro de Jean Gorini, au micro, on l'a entendu, de Jacques Paoli, au micro.
Absolument.
De tous les grands, on a parlé d'André Arnault bien entendu, enfin de tous les grands journalistes de l'époque. C'est-à-dire qu'on donne la parole, il y a un côté presque libre antenne déjà dès les années 60 en fait.
Ça aussi c'est une grande innovation d'Europe 1, hein. On n'a rien inventé, l'interactivité, cette Europe qu'il a mis au goût du jour au milieu des années 60, et notamment, grâce doit être rendue à Jacques Paoli, dont on a entendu le timbre de voix absolument génial tout à l'heure dans plusieurs de ses extraits, qui notamment, avec Europe Midi, a créé la formule du journal en public, où les auditeurs pouvaient venir en studio questionner les journalistes, faire avancer l'actualité. C'est ce qu'on a remis au goût du jour avec Wendy Bouchard chaque jour entre 12h et 14h, mais ça, c'est une invention qui a déjà 50 ans.
On dit qu'à Europe 1, il y a priorité à l'information. C'est le cas dans d'autres médias, d'ailleurs. Ça a toujours été ça. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. On a pu le constater, malheureusement, il y a quelques semaines.
C'est une maison qui a la culture de l'information profondément ancrée. L'info circule dans ses artères. Vous disiez tout à l'heure, c'est l'une des deux jambes d'Europe 1. Je suis pas sûr qu'il y ait une jambe plus importante que l'autre, mais historiquement, c'est vrai. Europe 1 a acquis ses lettres de noblesse, son émancipation sur l'information. Et il y a une culture du flash spécial, de l'antenne qui s'interrompt, c'est-à-dire de la mort de Kennedy en 63 jusqu'aux événements absolument tragiques qui ont ensanglanté Paris il y a 3 semaines. C'est dans les gènes d'Europe 1 d'appréhender l'actualité, de s'en saisir et de la faire passer par-dessus tout.
Vous parlez de la mort de Kennedy, je signale à nos auditeurs que ça n'était pas prévu, mais puisque vous en parlez, voici ce que ça donnait dans Europe Soir, et toujours dans la voix de Jacques Paoli, nous sommes en novembre 1963.
Pas d'autres informations de dernière minute concernant l'enquête. Je vous rappelle les circonstances. Le président Kennedy a été assassiné dans sa voiture en fin d'après-midi pour Paris à 13h, heure américaine. C'était à Dallas, il venait d'inaugurer une exposition de fusées, il se rendait à un banquet. Il a été assassiné par un tireur qui devait se trouver à la fenêtre d'un immeuble sur le parcours. Ce tireur avait un fusil de grande précision, puisqu'à longue distance, il a arrosé la voiture, blessé le gouverneur du Texas qui se trouvait à côté du président, et surtout touché le président en pleine tête. Il a donc dû viser avec infiniment de précision, et il a réussi à toucher sa victime exactement au front, et à le tuer en lui faisant vraiment éclater la tête. Immédiatement, le vice-président, M. Lyndon Johnson, est devenu le président des États-Unis. À l'aérodrome où il attendait l'avion pour rentrer à Washington, il a prêté serment, car il était important que le pouvoir continue, que la présidence soit assurée. Et c'est une des choses, vous l'avez entendu dire par Philippe Labro, qui a rassuré les Américains.
Oui, je pensais que c'était Jacques Paoli, c'est Jean Gorini que nous venons d'entendre.
Jean Gorini qui donc était directeur de la rédaction ce 22 novembre 63, avec Labro qui était lui, Philippe Labro, qui était aux États-Unis.
Il se trouve qu'il était aux États-Unis à ce moment-là.
Et il avait travaillé pour Europe 1 et pour François, il a signé des papiers fabuleux pour François à ce moment-là. Grande tradition aussi. Gorini, qui était patron de la rédac, prenait l'antenne pour les moments exceptionnels. La mort de Kennedy et puis la mort du général de Gaulle. C'est aussi Gorini qui l'a annoncé à l'antenne d'Europe 1. Voilà, ça fait partie aussi de la tradition de cette maison.
Alors, évidemment, les transmissions n'étaient pas ce qu'elles ont pu devenir. On avait tout simplement le téléphone. Dans le cas de Philippe Labro aux États-Unis, là, ce jour-là, c'était par téléphone, par ligne transatlantique. En plus, on ne l'entend pas toujours très bien, mais c'est très émouvant, c'est très fort. Évidemment, Gorini, Siegel, Paoli, etc. Pour beaucoup de journalistes d'aujourd'hui, de ceux qui sont les grands patrons d'aujourd'hui, ça a été un peu les maîtres. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une école de l'information à Europe 1?
Oui, absolument.
Avec la bourse Loga et tout ça.
Oui, tout à fait. C'est la bourse Loga qui donc est attribuée chaque année à un jeune reporter qui sort d'une école ou qui passe le concours et qui lui permet de rentrer à la rédaction et d'y rester si son talent ensuite le permet. Oui, il y avait une façon de faire, Siegel et Gorini, encore une fois, cette façon de raconter simplement l'information telle qu'elle est. Gorini qui parle de la mort de Kennedy, c'est génial. Je suis sûr qu'il n'a pas un papier devant lui. Ça, c'était inouï comme façon de faire. Et ça a irrigué. Et ça reste aujourd'hui tout simplement, il faut le dire très modestement, la façon de faire aujourd'hui à la rédaction d'Europe 1.
Alors Fabien Amias, nous allons faire un saut maintenant, venir dans des années un peu plus récentes, les années 70, 80, 90, pour parler de ce qu'est devenu l'information sur Europe 1 à une époque plus récente.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Europe 1 fête ses 60 ans, 60 ans d'histoire, 60 ans d'information dont vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, avec votre invité Fabien Amias, notre directeur général et directeur de l'information. Et nous avons, Franck, beaucoup de réactions de nos auditeurs.
Oui, beaucoup. Margot nous dit tant de journalistes et de passionnés d'information qui se sont succédés derrière ces mythiques micros bleus. Ils n'ont pas toujours été bleus, chère Margot. Ils ont même été jaunes, oranges, marrons, enfin, etc. Ils ont changé de couleur avec le temps, les micros d'Europe 1. Souvenir de reportage reportage dit Gilles Klein, où j'ai côtoyé des journalistes d'Europe comme Gérard Fusy, Pierre-Henri Marin, Corinne Boulot, bien entendu. N'oubliez pas André Arnault et Georges Leroy, nous demande Jean-Louis par tweet. Et d'ailleurs, c'est Anne qui précise qu'elle est devenue accro à l'info parce que petite, elle se laissait bercer par André Arnault, justement. On va y venir à André Arnault dans un instant. Et puis c'est Nicole qui nous dit que tous les soirs, elle a l'habitude d'écouter Caroline Dublanche. Et je sens derrière cette remarque un petit reproche. C'est vrai que ce soir, on va reparcourir 60 ans d'histoire à travers les archives d'Europe 1. Mais rassurez-vous, chère Nicole, Caroline sera de retour dès demain soir. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour dans le studio d'André Arnault, justement, avec son léger petit accent toulousain. André Arnault, ce jour-là, lance la météo. Il est avec Julie, d'ailleurs, vous allez l'entendre, Céline. Sauf que, Laurent Cabrol n'est pas tout à fait ponctuel.
Alors, est-ce que Laurent Cabrol est parmi nous maintenant ? Laurent Cabrol m'a dit, je pense que j'ai le temps d'aller déjeuner et je ferai la météo un peu plus tard. Et il n'est pas là maintenant. Alors je pense que nous allons le retarder en parution, bien sûr. Nous pourrions peut-être écouter un peu de musique en attendant Laurent Cabrol.
Mais hein? Pourquoi pas bien Laurent sûr. Est tellement occupé en ce moment. Ah oui, il anime vrai. Tous les matins, il fait la météo du matin au soir.
Bon, il a ah le voilà, il est pas le temps qu'il rentre dans son bureau. Oh. Nous on le voit à travers les vitres là, mais vraiment, je crois qu'il faut lui laisser le temps d'arriver.
Ah, c'est une rédaction à l'américaine, tout est vitré, on voit tout ce qui se passe.
C'est vrai, c'est bien d'ailleurs comme ça. Ah, ça super. Au moins que il n'est pas tombé dans l'escalier, il ne s'est pas cassé une jambe. Non. Il arrive en courant, il ne ferme pas la porte.
Les prévisions météo de Laurent Cabrol, un peu essoufflé.
Et je suis allé surveiller de près les nuages dans la rue François 1er, voir qu'effectivement, en région parisienne, c'était très beau ce matin.
Ils courent vite les nuages, alors vont être essoufflés.
Et maintenant, eh bien, ça se couvre un petit peu. Alors dites trois mots pour que je reprenne ma respiration.
Ben, je ne sais pas, vous savez, je ne sais pas le temps qu'il fait en Bretagne, mais il y a un sujet breton qui préoccupe beaucoup les ostréiculteurs du golfe du Morbihan.
C'est ce qui s'appelle ramer, ça, dans le métier, vous voyez. Mais André Arnault le fait avec une bonhomie qui est tout
et
à
avec,
fait...
Et avec classe, quoi. Et ça classe. Aussi, c'est très Europe, Franck. Cette façon de raconter ce qui se passe, oui, tout voilà. Simplement, plutôt que être stressé, paniqué, raconter n'importe quoi. Bon, voilà, bah, Cabrol, il n'est pas là, il va arriver, on voit ce qui se passe, c'est vitré, c'est sympa. André Arnault, il est parfaitement à l'aise. En plus, avec la voix qu'il a, franchement, on adorerait qu'il meuble comme ça,
oui, mais c'est ça.
Pendant des heures et des heures. Mais très simple, très simple.
Quand je suis arrivé, moi, dans cette maison, c'est le seul et unique conseil qu'on m'ait donné, entre parenthèses, le seul. On m'a dit, s'il se passe quoi que ce soit, n'essaie pas de le cacher, dis aux auditeurs ce qui est en train de se passer. Exactement. Et tout ira bien. Je serais curieuse, nous dit Fabiola, d'entendre comment les journalistes ont appréhendé ces changements pour que l'info colle au plus près de l'actualité. Se sont-ils rendus compte que l'insouciance disparaît, que la peur, la pauvreté gagnent du terrain, que les politiques sont de plus en plus déconnectées? Nous possédons des progrès techniques, mais nous avons perdu le bonheur, nous dit-elle. Est-ce qu'on a vu changer la société à travers la rédaction d'Europe 1, Fabien Damias?
La vie d'une rédaction, celle d'Europe 1 comme les autres, mais en particulier celle d'Europe 1 qui se veut être au cœur et en phase avec la société, je vous le disais tout à l'heure, c'est de sentir ses remous et le sens dans lequel elle évolue. La réalité, malheureusement, depuis quelques années, c'est que le pays vit des moments compliqués, économiquement, socialement, politiquement, enfin bref, on sent bien que tout est plus douloureux qu'auparavant, et la rédaction, son rôle, c'est de raconter l'actualité telle qu'elle est. Encore une fois, on ne serait pas Europe si on se mettait à vous raconter une vie heureuse et rose. Donc oui, cette tension, cette angoisse, c'est notre devoir de la raconter. Et en même temps, l'autre devoir qui est le nôtre et qui est peut-être finalement moins naturel chez les journalistes, c'est de savoir un peu penser contre nous-mêmes et d'aller chercher aussi des histoires positives, des initiatives, d'être en quête de solutions. Et ça aussi, c'est Europe 1, je crois profondément, raconter la vie dans ce qu'il y a de plus dur, et en même temps proposer des solutions, des innovations, voir s'il n'y a pas un petit peu de lumière qui nous permet d'avancer.
On peut dire que, et c'était Étienne Moujotte qui l'évoquait tout à l'heure, les profils des journalistes se sont peu à peu un peu lissés d'une certaine manière. C'est-à-dire que ces personnalités coruscantes, totalement inattendues, avec des caractères, on peut même dire parfois dans certains cas des caractériels, tout ça est un peu moins vrai aujourd'hui. Les gens, sans être devenus interchangeables pour autant, mais ils sont plus polissés d'une certaine manière. On a constaté cette évolution à la rédaction ?
Oh, plus polissé, je ne sais pas, mais c'est vrai que bon, vous avez entendu tout à l'heure l'extrait où Jean-Claude Dacier, qui présentait le journal de 19h à l'époque, parle comme c'est pas permis à Albert Simon. Et en même temps, ça faisait partie du charme de la maison. Et c'était pareil pour André Arnault, Paoli et les autres. Il faut savoir aussi, je vais trahir quelques petits secrets. Paoli, par exemple, on m'a raconté. Moi, j'ai pas vécu à Europe à cette période-là.
Mais vous aviez un bon observateur pour en parler, effectivement.
Oui, absolument. Oui, tout à fait, parce que c'est une histoire également familiale. Il se trouve que Paoli, il arrivait, paraît-il, quelques minutes avant le journal de midi. Il entrait dans le studio. Il n'avait pas une feuille à la main. Il n'avait pas un stylo. Il avait un verre rempli d'une boisson qui n'était pas qu'une boisson gazeuse, je crois. Et il partait pour 2 ou 3 heures de direct. Et donc, il fallait avoir un sacré tempérament, parce qu'à l'antenne, il n'y avait pas de blanc. C'était toujours rigoureux, c'était toujours exact. Ce tempérament, il existe toujours. On va dire qu'il s'exprime peut-être de façon un peu plus normée. Mais pourquoi pas, ça peut revenir.
Et justement, c'est Robert Namias qui raconte que lors de son premier papier, il arrive dans le journal de Jacques Paoli avec, il avait écrit évidemment ce qu'il avait à dire. Paoli lui prend le papier, il fait son chapeau, c'est-à-dire le lancement si vous voulez, puis il continue, il lit tout le papier et quand tout est terminé, il dit « Et maintenant, qu'en pensez-vous Robert Namias ?» Et là, quand c'est comme ça, il faut improviser évidemment.
Il n'y a pas le choix. Mais je vais vous raconter une autre anecdote plus actuelle et pour poursuivre ce qu'on disait sur le ton un petit peu trop normé. Nous, on s'est rendu compte avec Nicolas Escoulan, qui dirige la rédaction, et Thomas Soto à la matinale, que les papiers du matin pouvaient par moments être un petit peu trop stéréotypés, alors que les journalistes de la rédaction ont un talent incroyable. Donc, pour la plupart d'entre eux, pour certains chroniqueurs, Thomas leur dit « Mais détachez-vous de vos fiches, détachez-vous de vos papiers, racontez-moi votre papier ». Et là, on retrouve tout le caractère qui fait la singularité d'Europe.
Mais bien entendu, et tout simplement, on se met à parler pour quelqu'un,
tout simplement.
Et comme si l'on était dans son salon, et évidemment, les auditeurs s'en rendent compte, certains des secrets. On est en train, en même temps, cet après-midi, de vous donner un petit cours de radio, en tout cas, certains secrets de ce métier. Alors, c'est Oumid qui, par Twitter, nous dit « Fabien Namias parle de l'indépendance d'Europe 1, alors j'aimerais bien qu'il nous explique pourquoi Chirac a viré Siegel, dit-il. »
Ah oui,
1974. Hein.
Absolument, 74. Pendant
c'était
20 ans,
la Sofirade à l'époque, hein, quand même,
voilà,
faut le dire.
Hein. En fait, voilà, Europe 1 était détenu à part égale par la société de Sylvain Floirat, premier propriétaire d'Europe, Matra, et par la Sofirade qui était l'organisme d'État. En gros, c'était à part égale. Et quand Chirac, quelques mois après l'élection de Giscard, donc organise ce dîner dont je vous parlais tout à l'heure, et dit « je ne peux plus supporter ce ton », etc. Et effectivement, c'était, on l'a évoqué, la main du reporter politique Gérard Carrérou, la main de Chirac sur le micro de Carrérou, diffusé à l'antenne, où là, ça paraît absolument inadmissible au pouvoir à l'époque, qui justifie l'éviction d'une équipe qui était là depuis 19 ans et qui avait commis le crime de lèse-majesté d'être parfaitement libre. Et à ce moment-là, la Sofirade demande l'éviction. Et c'est l'équipe d'Étienne Moujotte qui prend la direction d'Europe 1 et qui a parfaitement fait son boulot. D'ailleurs, moi, je dois rendre hommage à Étienne. C'est sous sa direction qu'Europe 1 est devenue la première radio de France. Et la tradition de liberté, elle a été conservée puisque 7 ans après, c'est Moujotte et son équipe qui se faisait purement et simplement virer
cette fois
par François Mitterrand, qui arrivait au pouvoir par le biais de son ministre de la Communication, Georges Filliou.
Depuis 1986, la radio est devenue totalement privée. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Hein, puisque...
Et ça a été le meilleur Franck garant de l'indépendance d'Europe. Moi, quand j'entends souvent « Ah, mais alors, privé, les radios qui appartiennent ou télévisions qui appartiennent à des grands groupes, etc., que ce soit Europe 1, TF1, Canal+, ou autre. Oui, d'accord, mais il n'y a pas meilleur garant de liberté que ces groupes par rapport à la situation que l'audiovisuel a pu connaître au milieu des années 70 et même début des années 80 où les dirigeants de l'information étaient nommés directement par le pouvoir en place.
Avec Philippe Gildas, donc à partir de 1981 justement, arrive une nouvelle façon de présenter les journaux, c'est-à-dire un côté un petit peu plus star system d'une certaine manière. Mmh. On est à mi-chemin du divertissement et de l'information. C'est Jean-Luc Delarue qui va pousser ça encore plus loin, lui bien entendu. Ça a été assez mal vécu par la rédaction, maintenant on peut le dire avec le recul aujourd'hui, Fabien Namias.
Oui, c'est vrai qu'il y a deux moments dans la façon de présenter les journaux du matin qui étaient plus stéréotypés jusqu'au début des années 80. D'abord, il y a la révolution Gildas qui est ce qu'on peut appeler le premier encoreman en réalité. C'est-à-dire que pendant 2 heures, il va mener tambour battant une tranche en lançant des journaux, des chroniques, des invités, etc. Donc ça, Gildas, il a apporté ça et ça a été un moment décisif dans la façon de faire les matinales radio. Et puis dans un deuxième temps, il y a eu l'idée de confier ces matinales à des gens qui n'étaient pas forcément au départ de formation des journalistes purs et durs, mais des gens qui avaient une vraie science de l'antenne, du rythme, de l'animation, et ça a été le cas de Delarue. Je sais que l'arrivée de Delarue, on me l'a raconté, moi j'étais pas là à l'époque, mais n'a pas toujours été bien perçue, bien comprise. En même temps, sa matinale marchait formidablement, et à sa façon, il a su imposer un rythme, une façon de faire, une musique qui petit à petit a été comprise par la rédaction.
Il a été copié par d'autres maisons, entre nous soit dit.
Il a été copié par toutes les maisons. Mais il a aussi apporté un style. Et vous savez, les innovations, les changements, ça fait toujours grincer des dents. Et nous sommes, il faut avoir l'honnêteté de le dire, nous les journalistes qui pourtant observons la société telle qu'elle évolue et telle qu'elle change, sommes souvent les plus conservateurs et les plus rétifs à l'innovation. Et la force d'Europe aussi, encore une fois, on parle beaucoup d'elle aujourd'hui, c'est son anniversaire, c'est d'avoir su innover, d'avoir su transgresser et d'avoir su par moments penser contre nous-mêmes et nos corporatismes.
La première à retirer les parrainages de publicité sur les tranches d'infos et aussi sur les tranches de programme. La première à créer les flashs. La première à mettre du reportage à l'antenne. On a parlé du ton, bien entendu. La première à prendre le virage fondamental du numérique, hein, lorsqu'on a abandonné les bobineaux, la colle et les ciseaux pour passer à des supports entièrement numériques. La première à prendre le virage du podcast, la première à prendre aujourd'hui le virage du streaming. Ce slogan « un temps d'avance », finalement, il correspond assez bien à Europe 1.
C'est la raison d'être d'Europe 1. C'est toujours difficile de définir une identité, un positionnement, etc. Je dirais tout simplement que Europe 1, dans ses valeurs phares, il y a une forme de transgression. On le disait tout à l'heure, ça s'est ressenti dans les programmes avec Coluche et les autres, et l'information, et une innovation permanente. Innovation dans le choix de ceux qui vont porter l'antenne, dans ceux qui vont fabriquer l'information, etc. Et puis, innovation technologique. Les premières voitures qui diffusaient des reportages, les petites Autobianchi à la fin des années 50, les premiers Nagras, les Nagras numériques à la fin des années 90. Aujourd'hui, les modes de diffusion multi-support. Nous sommes la radio qui proposons le plus de contenu filmé. L'innovation, c'est au cœur de la façon de fonctionner d'Europe 1 et c'est sans doute ce qui la résume la mieux.
Il y a un domaine dont on n'a pas parlé, mais nous n'aurons pas le temps de le faire aujourd'hui, c'est celui du sport, qui a été fondamental avec des grands noms. Je pense à Eugène Saccomano, mais il n'était pas le seul, évidemment.
Il n'était pas le seul, mais alors qu'est-ce qu'il a apporté lui aussi C'était une émotion, je ne sais pas si vous l'avez entendu avec nous, mais ce matin de l'écouter dans la matinale, fait sa chronique sportive peu de temps avant la vôtre, Franck. Ça, c'était un moment absolument inouï, Saccomano.
Bernard de Dijon nous demande de rappeler le nom du livre qui a été écrit sur Europe 1. C'est un très bel ouvrage de Luc Bernard qui s'appelle Europe 1, la grande histoire dans une grande radio. Et puis très bientôt, ce sera en avril prochain, sortira donc le dictionnaire amoureux d'Europe 1. Et là, vous saurez à peu près tout. Je vous assure que nous faisons l'essentiel pour que toutes les petites anecdotes, toutes les dates, tous les éléments, toutes les photos aussi, et Dieu sait qu'il y en a de très belles, soient dans ce dictionnaire. Merci beaucoup Fabien Damias d'avoir pris une heure sur votre emploi du temps surchargé pour venir nous parler de votre passion, l'information.
Dans un court instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Janine qui nous demande depuis quand Europe 1 est une radio périphérique privée. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Janine qui vit à Grenoble, qui nous demande depuis quand Europe 1 est-elle une radio périphérique privée ?
Oui, alors c'est amusant de confondre les deux, si je puis dire. Europe 1 a toujours été une radio périphérique. Ce qu'on appelle périphérique, c'est l'élément d'émission. C'est l'antenne qui se trouve en l'occurrence dans la Sarre, c'est-à-dire en dehors des frontières du territoire national, parce qu'à l'époque où Europe 1 est créé en 1955, il y a un monopole d'État sur la radio en France, donc vous ne pouvez pas émettre depuis le territoire national. Bon, donc Europe 1 est une des radios périphériques, hein, il y en a d'autres, Radio Andorre, Sud Radio maintenant, bien sûr RMC, bien sûr Radio Luxembourg qui est devenu RTL. Europe 1 est une radio périphérique et par ailleurs, elle est privée, nous le disions tout à l'heure avec Fabien Damias, depuis 1986, c'est-à-dire depuis que Jean-Luc Lagardère, qui était lui-même le successeur de Sylvain Floirat, a racheté l'ensemble des actions, notamment à la société d'État qui s'appelait la Sofirad et qui en possédait jusqu'alors la moitié. Donc Europe 1 est une radio périphérique, certes, et elle est privée, totalement privée, depuis 1986.
Et ce qui était formidable, Radio Périphérique, c'est qu'avoir un émetteur à l'étranger, ça nous évitait de nous faire couper le sifflet, si on faisait des choses qui dérangeaient.
C'était tout le but.